commence par m'excuser pour le retard auprès de Margot Delpierre dont c'est le journal. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le gouvernement chilien a proposé hier soir un plan de plus de 5 milliards de dollars pour relancer l'activité économique du pays plongé dans une crise sociale. Précision à Santiago de notre correspondante dans un instant.
Le sommet de l'OTAN s'annonce tendu. Il se tient aujourd'hui et demain près de Londres. Quels sont les enjeux? On verra ça avec Bertrand Galichet.
Nous reviendrons aussi sur la mise en examen de Sylvie Goulard pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants de députés européens qui touchent le Modem. Explication d'Antoine Maret. Et la question du jour, Guillaume.
Eh bien, climat, qu'attendre de la COP25 à Madrid? On posera la question à un climatologue, Laurent Bopp.
5 milliards et demi de dollars suffiront-ils à résoudre la crise au Chili? Un mois et demi après le début d'un mouvement social historique, le gouvernement a annoncé hier soir un plan de relance économique car l'activité s'est effondrée depuis et le peso chilien a fortement baissé ces dernières semaines. L'exécutif a pour objectif de créer jusqu'à 100 000 emplois supplémentaires directs et indirects. À Santiago, la correspondance de Justine Fontaine.
Des investissements publics plus importants que prévu, des aides aux petites et moyennes entreprises ou encore un soutien financier pour les salariés qui se retrouveraient au chômage partiel à cause de la crise. Voici quelques-unes des mesures annoncées ce lundi par le gouvernement de Sebastián Piñera. Un plan de relance qui ne comporte pas que de nouvelles annonces, mais qui représentera tout de même une hausse de 9% du budget de l'État par rapport à l'année 2019 et va creuser le déficit public pour les années à venir. Un mois et demi après le début du mouvement social au Chili, l'exécutif concentre ces derniers jours ses annonces sur des mesures sécuritaires et sur l'économie. En fin de semaine dernière, la Banque centrale avait par exemple déjà annoncé qu'elle injecterait jusqu'à 20 milliards de dollars dans l'économie d'ici à mai 2020 pour soutenir le peso chilien qui a fortement baissé depuis le début du mouvement social. L'activité économique, elle, a reculé de 3,4% en octobre par rapport au même mois de l'année précédente et elle devrait aussi chuter en novembre.
Justine Fontaine au Chili pour France Culture. Les dirigeants des pays de l'OTAN se réunissent à partir d'aujourd'hui près de Londres, 70e anniversaire de l'Alliance Atlantique dont l'existence est remise en question. Le président français Emmanuel Macron avait déclaré que l'organisation politico-militaire était selon lui en état de mort cérébrale. Pas de quoi améliorer ses relations avec les deux autres principaux acteurs de l'Alliance, les présidents américains Donald Trump et turc Recep Tayyip Erdogan. Le consensus qui pourrait être affiché cette semaine ne serait qu'une façade, Bertrand Galichet.
Le diagnostic implacable d'Emmanuel Macron sur l'OTAN sera dans tous les esprits à Londres, où le président français rencontrera successivement Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan. Le président français va assumer ce constat devant les chefs d'État ou de gouvernement des pays de l'Alliance Atlantique, comme il l'a fait la semaine dernière, en recevant à l'Élysée le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Entre-temps, les déclarations du président turc à l'encontre d'Emmanuel Macron, jugées insultantes par la France, ont jeté de l'huile sur le feu. Paris estime qu'il est temps de poser les questions de fond, notamment sur le jeu opaque au sein de l'OTAN de la Turquie, un partenaire encombrant, aussi indispensable que problématique. Officiellement, l'appartenance d'Ankara à l'OTAN n'est pas mise en cause. La rencontre entre le président américain et son homologue turc le mois dernier à Washington le confirme, malgré le contentieux non réglé sur les achats de missiles russes par Ankara. Sur le budget de l'OTAN, les États-Unis ont obtenu de réduire leur contribution, mais la participation des pays européens au financement de l'Alliance demeure un sujet de friction.
Et nous reparlerons de l'OTAN dans la revue de presse internationale à 7h35. On vient d'évoquer les États-Unis. Ils ont menacé hier soir de surtaxer les produits français jusqu'à 100% sur l'équivalent d'environ 2,5 milliards de dollars de produits, des fromages, des yaourts, du vin pétillant ou encore du maquillage et des sacs à main. Le vin traditionnel semble pour l'instant épargné. C'est la réponse de Washington à l'instauration en France d'une taxe sur les géants américains du numérique. L'administration Trump envisage aussi des mesures de rétorsion identiques à l'encontre de l'Autriche, la Turquie et l'Italie. À Rome, deux officiers italiens seront jugés à partir d'aujourd'hui pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. 268 personnes sont mortes, dont de nombreux enfants il y a 6 ans. Elles se trouvaient à bord d'une embarcation qui faisait naufrage entre Lampedusa et Malte. Nous y reviendrons dans dans le journal de 7h30. La COP25, 25e conférence de l'ONU sur le climat, a commencé hier à Madrid. Une cinquantaine de chefs d'État, de gouvernement ou de ministres se sont succédés à la tribune pendant la session plénière d'ouverture. À chaque fois, des plaidoyers pour se motiver les uns les autres à agir contre le réchauffement climatique. Véronique Rebérotte.
Il y a eu quelques absences remarquées à l'ouverture de cette COP25. Ni la Chine, ni l'Inde, ni le Japon, ni le Canada, ni l'Australie n'étaient représentés au plus haut niveau. Il y a ceux qui ont fait le déplacement, parfois seulement pour quelques heures, pour rappeler que le monde se trouve à un tournant, marteler qu'il est temps d'agir de façon radicale maintenant. Voulons-nous rester dans l'histoire comme la génération qui flânait pendant que le monde brûlait ? La formule est du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, brûlait et faisait couler des petites îles, comme les îles Marshall dans le Pacifique. Sa présidente, Hilda Heng, n'a pas fait le déplacement à Madrid, mais a envoyé son message par vidéo.
Les atolls les plus vulnérables comme mon pays sont déjà dans le couloir de la mort. L'eau recouvre déjà la plus grande partie de notre territoire à un moment ou un autre de l'année. En tant que nation, nous ne voulons pas fuir, mais nous refusons aussi de mourir.
Peu de pays étaient venus à l'ouverture de cette COP avec quelque chose dans leur bagage, à part la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Une promesse, investir 1 000 milliards d'euros sur 10 ans pour financer la transition écologique de l'Europe et en faire le premier continent neutre en carbone en 2050. Transition bien sûr, mais à condition qu'elle soit juste socialement. C'était aussi un des messages d'ouverture de la COP25.
Qu'attendre de la COP25 à Madrid ? C'est la question du jour posée par Guillaume Herner ce matin à son invité, le climatologue Laurent Bopp, dans quelques minutes.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Une femme de 61 ans est toujours portée disparue dans le Var.
Le département a été touché par des intempéries ce week-end, des pluies diluviennes, des inondations, du vent. Au total, dans le sud-est, 6 personnes sont mortes, dont 3 secouristes. Dans les Alpes de Haute-Provence, hier après-midi, des rochers se sont effondrés sur des maisons des mais. La préfecture l'explique par les conditions météorologiques défavorables de ces derniers jours qui ont rendu le terrain instable. Des collaborateurs parlementaires du Modem ont-ils été rémunérés par le Parlement européen alors qu'ils étaient affectés à d'autres tâches pour le parti centriste ? C'est ce que les magistrats cherchent à déterminer. On l'a appris hier, l'ex-ministre Sylvie Goulard a été mise en examen vendredi dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs des assistants de députés européens. Les explications d'Antoine Marette.
La descente aux enfers de Sylvie Goulard commence en juin 2017 au moment de l'ouverture d'une enquête préliminaire du parquet de Paris. Celle qui est alors ministre des Armées quitte le gouvernement après seulement 1 mois et 4 jours. Elle explique vouloir être en mesure de démontrer librement sa bonne foi. Sauf qu'elle n'arrive pas à fournir au Parlement européen de preuves de travail de l'un de ses assistants quand elle était eurodéputée et elle accepte finalement de rembourser 45 000 euros au Parlement européen. Mais cela n'apaise pas les parlementaires qui lui refusent une place dans la nouvelle commission. Sa candidature est rejetée par 82 voix contre 29, malgré le soutien d'Emmanuel Macron. Un camouflet pour Sylvie Goulard, dont les prestations généreusement rémunérées entre 2013 et 2016 pour un think tank américain, alors qu'elle était eurodéputée, suscite également la polémique. La voilà donc mise en examen pour détournement de fonds publics. Elle reste pour le moment deuxième sous-gouverneur de la Banque de France. Rien dans les textes de loi ne l'empêche de conserver ses fonctions, dit-on, au sein de l'institution.
C'est après une autre affaire politique, l'affaire Cahuzac, qu'est née il y a 6 ans la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Son président, Jean-Louis Nadal, termine son mandat. Et avant de passer la main, c'est l'heure du bilan, Rosalie Lafarge.
Ça n'a pas été de tout repos de la faire accepter, la transparence. Les responsables publics n'ont pas tous tout de suite adhéré aux mécanismes de contrôle de leur patrimoine et de leurs intérêts, se souvient Jean-Louis Nadal.
J'ai eu certains qui ne manquaient pas de me dire « mais je ne vends pas mes biens, je ne veux pas vous dire combien ils valent ». Des élus qui vous téléphonent en vous disant « mais attendez, moi j'ai un cheval de course, où est-ce que je le mets dans les biens mobiliers ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ces trucs-là ? De quoi vous occupez ?»
Mais il l'assure, tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, les élus comprennent et le président de la Haute Autorité a le sentiment d'avoir réussi à faire infuser cultiver une certaine culture de la probité et de l'intégrité dans la vie publique, ce qui participera, selon lui, à la restauration de la confiance.
Et c'est un impératif catégorique. Il faut qu'on sorte de cette démocratie de la défiance qui aujourd'hui est trop désespérante et dévastatrice puisqu'elle ouvre la porte au populisme.
S'il a bien avancé, le chantier reste colossal, reconnaît Jean-Louis Nadal. Il faut, dit-il par exemple, rendre plus accessible au public les déclarations de patrimoine et d'intérêt des élus, faire beaucoup plus en ce qui concerne les lobbies et leur force de frappe dans la fabrication de la loi.
Il y a encore, encore et encore beaucoup à faire.
Et celui qui rendra les clés de son bureau dans quelques jours formule un vœu pour l'avenir.
C'est d'inscrire la haute autorité dans le marbre de la Constitution, que les exigences d'intégrité, de probité, d'exemplarité soient vraiment dans la Constitution.
Cela viendrait parachever, dit-il, les efforts entrepris pour construire un dispositif efficace de contrôle et de prévention. En 6 ans d'existence et après plus de 50 000 déclarations de patrimoine et d'intérêts reçus, 73 dossiers ont été transmis à la justice pour des infractions à la probité.
Rosalie Lafarge. À partir d'aujourd'hui, les régions peuvent passer des appels d'offres pour confier une partie de leur TER à un autre opérateur que la SNCF. C'est une étape importante en vue de l'ouverture à la concurrence des trains express régionaux. Les Hauts-de-France, le Grand Est et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont déjà montrés intéressés. Cette étape tombe 2 jours avant la grève des cheminots sur un autre sujet. Ils se mobilisent contre la réforme des retraites. Alliance et UNSA Police ont appelé hier à des actions conductibles à partir de jeudi. Ces deux syndicats policiers souhaitent le maintien de leur régime spécifique de retraite. La réforme prévoit l'instauration d'un régime universel. Les policiers bénéficient jusqu'à présent d'une bonification spéciale. Elle leur offre une annuité de cotisation tous les 5 ans. Elle est plafonnée à 5 annuités et pour y être éligible, il faut avoir exercé 27 ans. Le temps aujourd'hui sera plutôt ensoleillé, sauf sur le quart nord-est de la France où le ciel restera dominé par la grisaille. Attention au brouillard localement givrant ce matin. Vous n'aurez pas plus de 4 degrés à Lille et Strasbourg cet après-midi, 5 à Paris, 6 à Lyon, 7 à Bordeaux, 15 à Nice et 17 degrés à Ajaccio, Guillaume.
Merci Margot Delpierre.